Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 3 juillet. C'est la veille de la fête de l'indépendance aux États-Unis. Vous écoutez Radio Silence, Flash sur le monde par Elise Bock. Bon, il y a eu la Tabaski, hein, c'était il y a, je crois, mercredi. La fête de la viande, on va dire comme ça, parce qu'ici, j'ai assisté à quelque chose de enfin, phénoménal. J'ai entendu qu'on distribuait la viande à tout le monde dans un village. Vous voyez, donc il y a du monde, hein, à chaque famille en fait. OK? Et comment ça se passe? Oh, peut-être qu'il faut les nombres. Enfin, bref, l'organisation chaotique, ce qui donnait lieu au fait que bah, eux, ils connaissent pas les gens. Hein. Les familles, quand vous étiez cinq, vous pourrez passer cinq fois. Et puis les autres, hein, ils vous regardaient, ils disent rien aussi, parce que dans les villages, c'est fou, il y a une omerta, c'est pas possible. Si vous parlez, on vous menace, mais les gens sont cloués de peur. C'est la loi de la jungle, c'est incroyable. Donc, Tabaski, bah après, finalement, au final, en fait, c'est beaucoup de gens ont acheté, ont négocié la viande par derrière, ont acheté, beaucoup ont. Il y a même eu des enchères, parce que les femmes achètent pour revendre. Beaucoup de gens doivent passer, si vous voulez être bien servi, il faut venir avec aussi quelque chose. Hein, c'est basé sur le principe du donner et du recevoir. Si vous avez un régime de plantain, c'est très bien. Si vous avez du macabo, c'est très bien. Et puis, beaucoup de relations personnelles, évidemment, beaucoup de cadeaux pour les élus. Vous savez, l'élite locale, à la fois décentralisée et nationale, casquée, c'est incroyable. Je crois qu'ils ont quatre ventres parce que ils mangent de partout. Ils mangent de partout, ils sont les mieux servis, c'est les rois. Je ne sais pas, c'est comme on a dit, la Bible a dit, on donnera beaucoup à celui qui possède déjà, mais c'est vraiment ça au Cameroun, et je crois que c'est cela aussi dans le monde entier. Pourquoi je commence par la Tabaski et que je fais cette première chute-là sur on donnera beaucoup à ceux qui en ont déjà? C'est que je pense à l'affaire Naël. On va pas trop parler des États-Unis, cette fois-ci vraiment avec ce qui se passe. On va faire une pause, on va se poser un peu sur la France. Et oh, si un pays que j'ai étudié en long en large, pour cette 5e République, notamment depuis que je suis venu en France avec le régime Mitterrand, oui, le régime. La période socialiste d'arriver au pouvoir à 1980, parce qu'à ce moment-là, on était fous, on espérait un changement radical de paradigme de la gouvernance. Et peut-être que M. Mitterrand a essayé, peut-être qu'il n'a pas essayé, mais toujours est-il dit que lorsqu'on nous a parlé de son passé, et vichysiste, bon, on était éplorés. Bon, bref, on n'était pas éplorés, mais ce qui a suivi a confirmé le mandat, enfin la nature du mandat, que finalement c'était toujours le capitalisme qui se suivait, mais sous des formes ampoulées qui ne se voyaient pas très bien parce qu'ils sont arrivés avec un bon discours. Et vraiment, ceux des immigrés comme nous, qui étions venus pas par la mer et tout ça, hein, normalement, parce qu'on admirait la France, on était partie prenante de tout cela, cette idéologie. Et puis, vous savez, la France, avec son universalisme, c'était vraiment le pays où il fallait aller. C'était pas les États-Unis, en fait, pour ceux qui se voulaient être intellectuels, les amoureux de la littérature, les amoureux de l'art de vivre, les amoureux du savoir-vivre, du savoir-être, les amoureux d'un certain standing, une certaine classe, de l'élégance, la French touch, quoi, en fait. C'était vraiment pas seulement un romantisme béat, mais du grand art, quoi. La France a représenté ça. On est arrivé et puis on a vu la chose se dégrader. Et le cas de Naël, chaque fois qu'il y a une chose comme celle-ci, oh, la France se réveille, elle se redécouvre, elle redécouvre qu'elle est raciste, elle redécouvre qu'elle est violente, elle redécouvre qu'elle n'est pas honnête, que sa gouvernance est très malhonnête, et elle repense comment la société, Jacques Chirac avait parlé de fracture sociale, mais lui, il était fort en diagnostic. Après, ça ne suivait pas derrière vraiment, quoique il était plus humain et plus généreux quand même pour compenser ses failles, cette faillite. Et on a resté là. Alors la France s'est réveillée avec Naël, 17 ans, tué par un policier. Mais où tue-t-on un enfant de 17 ans? Je lui dis, où un adulte armé peut-il tuer un enfant de 17 ans dans la rue parce qu'il a refusé d'obtempérer après lui avoir asséné en plus un coup, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas possible, c'est d'une violence inouïe. Bon, déjà, le policier est en position de force, d'autorité. Et vu ce que c'est que la France, il n'a pas besoin d'en faire trop. On prend la plaque d'immatriculation, on file les enfants, on va les retrouver. Ce n'est pas un problème, ça. Alors, toute cette police qui se met à imiter l'Amérique, je ne sais pas pourquoi. Le problème de l'Amérique, c'est que l'Amérique, elle n'est pas très cultivée, hein. Les Américains, c'est des gros types comme ça. Je sais pas, il y a un professeur qui parle, son nom m'échappe là sur Internet, je le vois, qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aux États-Unis qui savent ni lire ni écrire. Donc, par conséquent, ils soutiennent le système sans même savoir pourquoi, mais ils savent juste que c'est ça qui leur donne du beefsteak et puis c'est tout. Alors, il y a une différence radicale dans la manière de faire la police entre la police américaine et la police française. On ne peut pas couper à cela parce que le petit, un enfant de 17 ans, rendez-vous compte, c'est horrible. Alors, ça n'arrive pas par hasard. Si ça arrive, c'est que ce policier aussi s'est senti autorisé à faire cela. C'est ça le problème. Il s'est senti autorisé à faire cela. Et pourquoi il s'est senti autorisé à faire cela? Alors, vous savez, CNN, qui est le champion des médias qui se présente toujours en France lorsqu'il y a des émeutes, avec toute leur malhonnêteté et démagogie qu'ils portent. Ils emportent comme ça avec eux. CNN se présente, oui. Elle récupère les aveux, et puis surtout ses titres, c'est toujours la maman de Naël demande qu'on revienne au calme. Il ne faut pas casser les bâtiments publics. Il faut, je sais pas, raison garder. Mais quelle raison? Quelle raison garder? Comment peut-on garder? Moi, j'ai été en territoire plutôt, on dit ça, ville nouvelle, mais ce sont ces mêmes villes, hein, de banlieue, qu'on qualifie ville nouvelle, ça fait plus joli. Mais là-bas, j'ai vu, je connais moi la banlieue, je connais, et je connais son côté sordide. Je connais comment on exclut les gens, ça c'est venu avec les mitras et la gauche, comment on exclut les gens tranquillement, sans les brutaliser, avec des très beaux langages, des très beaux discours pédagogiques. Ce pédagogisme qui a connu d'ailleurs ses limites avec, vous avez vu les recrutements, hein, des enseignants dans les banlieues, les gens n'en veulent plus. Les gens ne veulent plus aller enseigner là-bas parce qu'on sait bien que tout cela, c'était du grand verbiage, mais derrière, il n'y avait pas un véritable programme pour sortir, pas pour sortir les gens, mais un véritable programme qui reconnaisse le mérite, point. Et qui donne les conditions du mérite aussi. C'est ça le problème. Dans la banlieue, il n'y a pas de conditions de mérite. Hein, les conditions pour arriver au mérite sont très compliquées. Si les parents eux-mêmes n'étaient pas à l'école, ça va être compliqué pour les enfants. Et ça, le gouvernement le sait d'office, parce que ça provient aussi de la politique de l'immigration. Quand on accepte une certaine immigration qu'on ne forme déjà pas, comment voulez-vous que ça suive? Et quand même ça suit, parce qu'il y a des enfants qui arrivent à s'en sortir, la société ne les intègre pas. Il y a des garde-fous à tous les niveaux pour maintenir ces enfants-là dans l'exclusion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se révoltent, ça donne les Naël. On vous dit non, mais c'est des excuses. Oui, mais c'est des excuses. Oui, bah alors c'est où cela? Ou à l'usine, c'est pas mieux. Enfin, ou cela, ou ce dont on l'accuse de récidiviste, de tout et tout et tout. C'est où cela, ou à l'usine, c'est-à-dire des impasses. Des impasses. On connaît tout cela depuis. Et pourquoi un grand pays comme la France, vraiment, un grand pays comme la France reste indigne par rapport à ça et accepte cela un peu comme une fatalité, alors que la France avait matière à penser avant. Aujourd'hui, elle pense plus. Elle s'est contentée. Je ne vais pas décrire la banlieue parce qu'elle est sordide. C'est des exclusions à tous les niveaux. Vous allez. Bon, franchement, c'est très compliqué là-bas. Déjà, l'accès au logement, c'est toute une péripétie. Les expulsions, bon, jusqu'à ce que moi, on m'expulse vraiment. C'est pas que j'en reviens toujours pas, mais je vois comment la France, au début, j'en revenais pas. Je vois comment la France est tombée bas, tombée tellement bas qu'elle en est devenue un peu racaille, quoi. Voilà, c'est ça. Mais le président Sarkozy avait retourné l'arme contre les banlieusards en disant vous voulez qu'on vous débarrasse de cette racaille-là? En disant ça aux policiers. Ben, les policiers ont compris depuis qu'il y avait une racaille à se débarrasser. Mais c'est aussi trop facile que les policiers puissent comprendre comme ça. Ça voudrait dire qu'à la tête, bah, ça passe pas mieux. Donc, on laisse tomber ce côté parce que personne n'est parfait. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? J'ai vu là, vite fait, même comme Google s'est organisé avec le réseau MTN et puis les médias, de bloquer mon accès à leurs informations. On envoie un récapitulatif de l'info du jour. Quand je clique dessus, ça s'ouvre pas. Bon, c'est pas grave. Et MTN, quand je n'ai plus les crédits aujourd'hui, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme message? Je l'ai écrit quelque part parce que sinon je risque d'oublier. La recherche d'emploi ne sera plus un mystère pour toi. Donc, tape, je sais pas quoi, là, 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 là. Bon. Vous avez donc cette arrogance des réseaux sociaux ici. C'est parce qu'on a. Quel écrivain, là, je crois que c'était Braudel, qui avait écrit que le fait colonial a été importé en France. Ce qui se passe en France entre les banlieues et, enfin, ce qui se passe en France sur la place de la banlieue au sein de la société française, c'est la même chose ici sur tout le Cameroun par rapport à tous ces opérateurs qui sont venus s'installer pour étouffer les gens, dont le MTN, ils vous rationnent hein, et vous n'avez rien à faire, vous devez supporter ça. Voilà, j'ai encore les emmerdeurs qui sont arrivés. Je croyais que j'avais un peu de répit. Ils vont commencer à crier. Sont nos anglophones ici, on va en parler. Hein. Vous ne pouvez pas respirer un peu. Et c'est comme s'ils vous sentent quand vous allez faire quelque chose. Alors, ils arrivent des anarchistes comme pas possible. C'est vrai aussi, les banlieusards, ils ont ce côté-là ici. C'est-à-dire des gens qui arrivent sans foi ni loi. Ils rentrent dans la mer. Ils arrivent là-bas. Ils n'ont aucune éducation. C'est vrai. Il y a de ça, il y a de ça. Raison de plus pour bien distinguer quand même entre cette racaille-là, si on peut dire, qui est inéducable, et voir si on la fait partir, là je suppose Zemmour, et ceux qui sont pas intégrables, mais ceux qui sont nés en France, ils sont nés en France de toute façon, et ils ne sont pas des mauvais enfants tant qu'on ne leur a pas montré l'autre côté du miroir. Et l'autre côté du miroir, c'est quoi? L'autre côté du miroir, c'est toute cette bourgeoisie, je sais plus si on appelle ça bourgeoisie, c'est petit. L'aristocratie, la noblesse d'État, disait Pierre Bourdieu, va se réunir, son président va appeler tout le monde, va se concerter suite à ces événements qui se sont passés. Il faut faire quoi? Bla bla bla, il faut faire quoi? Ça va être des nouveaux programmes. La France insoumise a proposé des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que la France insoumise veut faire passer un texte ou sollicite la présidence d'une commission à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Mais tous les autres votent ou s'abstiennent, et puis c'est finalement un autre candidat qui passe. Donc ces gens-là sont tous de mèche. Alors ils vont se regrouper pour parler de quoi? Quand vous pensez que les mêmes commencent les fonctions de maire, vont au conseil, je sais plus si le conseil général existe, ils vont au conseil régional, ils sont ministres, ils sont au gouvernement, ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont présidents d'agglo, ils finissent par arriver au conseil d'État, conseil, je sais plus, économique et social, et puis ici le conseil constitutionnel, ainsi de suite, monsieur Fabius. Hein, il est la quintessence même, et il n'est pas le seul d'ailleurs, de tout cela. Aujourd'hui, quand vous avez donc ces gens qui gagnent des sommes astronomiques sur le dos des gens parce qu'ils ne méritent pas cela, loin s'en faut, c'est juste une organisation mafieuse qu'ils ont mise en place, qui a confisqué la démocratie, c'est le débat qu'il y a aux États-Unis aussi, qui a confisqué la démocratie et l'a remise entre les mains de ce que Pierre Bourdieu appelait encore les héritiers, qui se sont organisés pour truster tous les postes de responsabilité intéressants dans les ministères, toutes les missions, tous les cabinets de consultants, etc., etc. Les ONG, voilà, les entreprises même, les hommes les plus riches, les milliardaires de France, etc., à subventionner au départ, bien sûr. Et lorsque ces gens volent comme ça, ouvertement, parce qu'il n'y a pas une loi qui peut limiter le mandat sur la durée, une loi qui peut limiter le nombre de mandats, empilés, comme s'ils étaient les seuls. Enfin, ces gens-là ont un appétit insatiable, ils pompent une somme d'argent incroyable. Laquelle somme d'argent devrait être affectée à aider, pas recruter, à élever le niveau de ces enfants-là, à la fois en termes d'éducation, en termes d'accès. Hein, on parle un peu parler des grandes écoles, il n'y a pas besoin. Bon, ces inégalités frappantes, et déjà, en plus, donc, qu'ils souffrent de tout cela, ils sont dans leur coin, la police quitte parce qu'on a dit oui, mais on. Les médias, voilà, où CNN arrive. Il y a des zones de non-droit, il faut quand même que la police arrive. Quand je dis CNN, c'est emblématique, hein, de tous les médias. Il y a les zones de non-droit, il faut que la police entre dans la banlieue pour surveiller. Oui, mais elle n'a qu'à entrer aussi dans le 16e, etc., à la sortie des métros. Hein. Ce ne serait pas plus mal. Pourquoi elle est toujours dans les banlieues? Hein? Vous avez négligé les gens, puis vous venez leur faire la leçon. Donc, il y aura des frictions qui sont justifiables des deux côtés. La police peut dire qu'elle fait son travail. Bon, moi, c'est pas elle qui peut faire le travail, la banlieue. La police ne peut rien faire dans la banlieue, sauf quand il y a un problème entre deux banlieusards, des habitants. Mais en dehors de ça, des jeunes qui se baladent, qui font je sais pas quoi, elle peut rien faire. On va dire l'ordre public, bon, alors il faut qu'elle négocie cela autrement, parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Les jeunes sont déjà énervés de voir les autres vivre là aux frais de la bête parce qu'ils sont les plus, comment on dit, la white supremacy, qu'on a, hein, on enrobe un peu comme ça de black et de beurre. Bon, ça fait bien pour le gâteau, hein, la couleur. Mais c'est tout, c'est presque tout. Quand vous regardez quand même les États-Unis, qu'on dit être le pays raciste, les blacks et tout. Vous voyez quand même que les blacks là-bas sont quand même intégrés. C'est pas la gnognotte qu'il y a en France. Hein. Du tout, du tout. Et bon, c'est normal. Moi, l'appel de CNN qui vient pour dire oui, la grand-mère appelle au calme, la mère appelle au calme. Aux États-Unis, il y a eu de cela un enchaînement, c'était sous Obama. Hein. On tuait un noir presque tous les mois ou tous les 2 mois. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est sous sa mandature, il paraît qu'on a le plus tué de noirs comme ça, que la police a le plus tué de noirs comme ça. Et à chaque fois, si elle sortait, allait interviewer la maman ou la famille, oui, la famille appelle au calme. Et le comble, c'est celle qui à la fois avait dit, oh, elle est éplorée, on a tué sa sœur, mais elle pardonne au tueur. Bon, c'était le comble. De toute façon, c'est la condition. On dirait qu'on leur place les mots dans la bouche pour que ils répètent ces mots-là, sinon ils passeront pas à CNN. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de CNN? Appelez au calme. Bon, c'est du politiquement correct, hein. On a toujours joué à ça. Et ça, c'est le consensus mou qui participe du statu quo, qui empêche de poser les vrais problèmes une fois pour toutes. Et donc, de temps en temps, il y aura un coup de pied dans la fourmilière. Pour le moment même, la France, elle a, comment je vais dire, elle a la chance. Elle a la chance. Parce que les bâtiments qu'on brûle là, c'est pas même à la hauteur des inégalités que les gens supportent. Dans les banlieues, non, c'est pas à la hauteur, parce que les gens sont traités comme des déchets humains en France. Les immigrés, c'est ça, c'est de la déchetterie. Alors, faut pas venir faire les grands discours creux, vaseux devant les gens. Dans la limite, vous êtes de la déchetterie, bon, alors on brûle tout. Normalement, ça, c'est la psychologie qui permet automatique, comme ça, automatiquement, on peut pas laisser, parce que quand même, tuer quelqu'un pour un contrôle de faciès, d'identité. D'identité. Tuer quelqu'un pour ça, c'est grave parce que même si ce n'est pas l'identité, une vie, autant on défend l'avortement, autant c'est grave parce que chaque être humain fait partie de la chaîne de l'humanité. C'est pas comme les bâtiments publics. Hein. Les bâtiments publics, c'est l'homme qui les construit. Ce n'est pas les bâtiments publics qui construisent les gens. Même comme on dira, oui, participe à l'éducation. Oui, mais quelle éducation? L'éducation qui te permet de rester sur place n'est pas une éducation. L'éducation te permet d'entrer dans la mobilité positive. Alors, vous ne pouvez pas me dire que je suis éduqué, vous êtes éduqué, dans la mesure où vous ne pouvez pas bouger de votre. Vous êtes captif de l'environnement. Mais non! Ça, c'est pas l'éducation telle qu'elle a été conçue, je vais dire, dans son essence. C'était justement le propos de la liberté. Vous libérez les gens par l'éducation, mais vous les maintenez pas sur place à tourner en rond dans un chômage des cervelats ou dans des boulots de merde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'ouvriers. Non, je n'ai pas dit ça. Même l'ouvrier. On sait qu'il y a des gens qui ont commencé comme ouvriers et qui ont fini au sommet de la société. Ça, c'est pas le problème d'être ouvrier, mais justement parce que ces gens-là étaient formés en permanence. Il y avait une formation qui les permettait de ne pas rester. Il y avait un plan de carrière. Aujourd'hui, il n'y a plus le plan de carrière. Vous entrez quelque part, vous restez là 30, 40, 50 ans, vous crevez là. Pendant ce temps, cette élite, cette aristocratie morbide avance là. Vous dites, et totalement incompétente, hein, parce que je ne sais même pas comment ils font pour entrer dans les grandes écoles. On sait que c'est tout magouillé. Parce que quand vous voyez ce qu'ils font, d'abord, ils ne connaissent pas la société, ils s'en foutent. Quand vous voyez en plus le travail qu'ils font, ce n'est pas du travail. Ils paradent, ils font du spectacle, ils vont à la télé, c'est pas à la télé qu'il faut aller, c'est pas là-bas qu'on travaille. Gouverner, c'est pas seulement communiquer, bavarder, c'est réaliser qu'on voit ce qui se passe et que les gens voient un changement dans leur vie. Donc on ferme pas les gens. On les maintient là et on dit qu'on les éduque, on dit qu'on leur donne à manger, que la France est généreuse. Mais la France généreuse, on pourra en parler. Parce qu'on va revenir là, si on va en parler, de ce qui se passe dans la France-Afrique. Parce que vous savez, une fois que la responsabilité de la France, c'est ces pseudo-dirigeants qui paradent là-bas, elle est monstrueuse vis-à-vis de l'immigration. Elle est monstrueuse. Et je ne sais pas comment vous dire ça, parce que Si vous regardez des deux côtés de la rive, enfin du rivage, vous serez, je sais pas comment on va dire, hébété parce que c'est pas possible le système que la France a mis en place. Moi, je suis arrivée ici, ça fait comme un détonateur, surtout dans un village comme ça. Tout le monde a compris. Ah bah peut-être que je parle en faute. Tout le monde s'est senti dynamisé parce qu'ils se sont mis en compétition avec moi. Alors cette année, tout le monde a couru dans les champs pour planter. Je suis venue réveiller leur conscience, leur culture, cultiver. Bon, c'est terrible. D'autres ont tenté le voyage vers l'étranger. Deux ou trois sont décédés. Et puis, il y a un qui est arrivé en Turquie. C'est très bien pour lui. Moi, je me souviens qu'il me disait ici, quand je lui disais que bah, ça va pas, comme vous vivez ici comme des rats, qui m'a dit. Non, 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 on veut pas être dressé, nous on est bien comme ça. Ah ben oui, ben finalement, à force de me voir tourner, fonctionner, bah il est parti. Alors là, on va chuter sur l'Afrique. On va chuter sur l'Afrique parce que c'est un jeu sordide que la France, auquel la France se livre dans cette histoire d'immigration. Là, je vous ai parlé du côté positif rapidement, mais en fait, quand vous arrivez ici, vous trouvez donc que la France a mis en place le même genre de dirigeants prédateurs qu'il y a là-bas, qui sont là, et qui ont pour mission non seulement d'appauvrir leur peuple, mais ensuite de bloquer la diaspora. Vous voyez le retour? C'est quelque chose d'énorme. Donc les gens appauvris, sans travail, parce que le chômage que vous voyez dans les banlieues là-bas aujourd'hui, c'est ça ici, le chômage des jeunes. Et je veux dire, ça rend fou, ça rend fou. Les jeunes n'ont pas de travail. C'est le système D. Heureusement, il n'y a pas encore de cannibalisme, c'est pour dire. Il leur reste quoi? Il faut aller en France. Il faut immigrer, il faut aller en Italie, où on peut. Et c'est comme ça qu'il y a une bonne partie de l'immigration qui arrive là-bas, créée par la France, créée par la France. Et l'autre partie, c'est la diaspora qui arrive. Quand nous arrivons, les consignes sont données tout de suite de bloquer toute entreprise qui sera possible, à commencer par l'impossibilité d'avoir une carte nationale d'identité que vous aviez lorsque vous êtes parti, mais si vous l'avez perdue, tant pis pour vous. Et si vous n'avez pas ce sésame, vous pouvez rien faire. C'est exprès. Vous pouvez rien faire parce que il suffit qu'on voit un vide dans votre curriculum pour que cela arrive. Ici, c'est le même système, hein. Inégalité, favoritisme, médiocratie, clanisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc l'Afrique ne peut pas bouger. L'Afrique est là au service de l'étranger, de l'Union européenne et des États-Unis et de l'Occident. Ça, c'est clair. Elle n'a pas de projet à elle et c'est pareil. Pour ces illuminés qui vous parlent du panafricanisme, c'est des conneries. Ou qui vous parlent, oui, bon, les Africains étaient un grand peuple avant. Oui, bon, d'accord, ça va. Et au fond, tout ça ne fait pas avancer le problème. Ça ne fait pas avancer le problème du développement. Et c'est toute une farce qui a lieu. Et donc, quand ces immigrés arrivent là-bas et qu'en plus on les traite comme Naël, je ne sais pas si on est dans la double ou la triple injustice. Je veux dire, c'est terrible, c'est le naufrage. Hein? Les Noirs sont des naufragés, à la fois chez eux et ailleurs. Alors, il faut ici qu'on attende toujours que ça vienne de l'extérieur pour qu'on leur dise. Par exemple, que j'ai lu récemment, ah ben oui, à partir de maintenant, les cartes nationales d'identité seront demandées dans chacune des communes. C'est la grande découverte de la décentralisation. Il faut que le groupement, c'est pas, ça s'appelle le GIZ, c'est une ONG allemande, quelque chose comme ça, vienne leur dire cela, ce que n'importe quel membre de la diaspora leur dirait tranquillement et ils ne vont pas croire en cela. Non, ça va leur passer par-dessus parce qu'il faut faire un tapage dessus, comme quoi le ministre a découvert le pot rose. On en est là. Bon, les gens s'emmerdent. La décentralisation, ça servit à rien. Ça servit à créer une nouvelle classe de notables locaux, hein, qui vivent aussi de tous ceux qui peuvent. Oh, je vais pas. Ça va être long si je commence à vous dire la sociologie de ce que la décentralisation produit. Elle ne produit rien. Elle produit de nouveaux riches qui s'empiffrent dans des réseaux. Comment dirais-je? Si je prends un réseau, c'est par exemple. Oh, bon, laissons tomber parce que. Et ça va secouer tout le schmilblick là, mais ça aussi, c'est juste une photographie de ce qui se passe au niveau national. Donc, remettons la responsabilité au niveau national. Et quand ces experts arrivent ici pour dire, parler de l'immigration, ils parlent mal de l'immigration. Ils n'en savent rien. Ou là-bas même. Quand le FMI veut parler, pas le FMI, la Banque mondiale veut traiter ces choses-là, elle en parle mal, elle prend le problème, à contre-courant. L'autre jour, M. Macron, avec son grand pacte financier sur une nouvelle finance, je ne sais pas quoi, vous voyez, avec tout ceci, qui néglige les êtres humains, qui les piétine, qui les prennent pour des déchets. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau pacte financier? Qui traite les gens comme de la merde, et puis l'environnement pareil, la pure merde, et qui se veut nouveau, je sais pas, nouveau en quoi? L'homme doit être au centre du projet. Mais ça, on a dit ces choses-là, on n'en parle même plus parce que tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, chacun regarde à sa poche. Le prédateur, il est là, il attend d'accumuler les retraites. Monsieur, d'ailleurs, Monsieur Macron, il a fait sa retraite à 64 ans. En attendant, les régimes spéciaux de retraite des parlementaires n'ont pas bougé, ni des sénateurs, ni leurs régimes spéciaux qui cumulent suite au cumul des mandats. Ils n'ont pas honte. C'est vraiment des épaves humaines. On va dire qu'il y a des épaves d'un côté, c'est eux les dirigeants et les naufragés, c'est les nous autres, le peuple. Bon, d'accord, donc c'est pas mieux, c'est pas terrible. Donc la retraite, ça me fait penser ici, on vient d'ajouter 2 ans à la rectrice de l'université de Ngaoundéré pour médiocrité avérée. Parce que c'est ça ici, hein. Tous ceux qui ont des postes, c'est des médiocres, parce que le système est organisé comme ça, ce sont les médiocres qui sont là pour surveiller un homme politique l'a bien décrit. Les médiocres sont là pour surveiller les méritants en bas qui n'émergent jamais. Vous avez des recteurs qui arrivent à l'âge de la retraite, ils ne partent pas. Oh, le président a prolongé de 2 ans. Ils sont allés pleurer, ils sont jamais repus, ils ont fait des carrières à partir de rien. Ici, vous êtes professeur, la carrière, c'est automatique, hein. Vous produisez rien, vous écrivez presque rien, vous êtes professeur, vous êtes émérite, vous avez des prix, vous avez des bobos, 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 et ça ne vaut que dalle parce que si la recherche valait quelque chose en Afrique, ça se saurait. Et surtout au Cameroun, on verrait les résultats. Alors, ils ont le beau jeu de dire, oui, mais. Quand nous trouvons quelque chose, on nous tue, machin, machin, bon, ça va, c'est trop facile. Faites déjà voir ce que vous trouvez. On ne voit pas. On a prolongé l'âge de 2 ans. C'est des cadeaux, hein. C'est renouvelable. Je ne sais pas combien de fois. Elle peut rester là, à parader, à fanfaronner, à que dalle. Et de l'autre côté, ici, à Yaoundé, hein? Pareil, monsieur le recteur est accroché là, l'âge de la retraite est déjà passé. Lui, je crois qu'on a déjà fait le renouvellement 2 fois. Ils sont là. Au nom de quoi et de quel principe juridique républicain cela peut se justifier? Au nom de quoi? Alors ici, vous avez des âges de la retraite, 65 ans, 63 ans, je sais pas, 50 ans. C'est comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ces gens-là, c'est des grands incompétents. Et ce n'est pas eux qui peuvent gérer la question ni de l'immigration, ni du développement, parce que fondamentalement, c'est que l'esbrouf, et c'est toujours le Sud qui est au service du Nord, d'après la répartition internationale du travail. Le Nord produit, le Sud consomme. Ça veut dire que si ce que le Nord doit produire, il faut qu'il vienne le chercher en Afrique. Il le cherche en Afrique, ce sont les multinationales qui produisent ici. Nous, on ne produit rien, touche à rien. Les petites choses hein, qu'on nous sous-traite. Et puis, eux, ils produisent. Nous, on consomme au prix le plus cher, s'il vous plaît. Donc voilà, par exemple, la retraite, c'est comme ça. Monsieur Macron, il va réunir son staff et ils vont faire leur petit bazar yo-yo. C'est très bien. Et puis, je ne sais pas, il faut une révolution, franchement, parce que les choses en sont au point où, si vous les vivez donc de ce côté-ci, mais vous allez être halluciné. Halluciné, c'est facile de l'autre côté de dire ci, de dire ça. Je vais finir par ce dernier constat où je crois que c'est le FMI ou la Banque mondiale, c'est tout pareil, est venue décaisser encore de l'argent ici. Après ce pacte, c'est toujours ça, les pactes financiers. Quand vous voyez tous les invités qui étaient là, c'est pour venir commander l'argent, faire leur marché et revenir ici. Il est venu au Cameroun, ils sont venus. Une photo de famille, oui, ben on va quand même décaisser encore, alors qu'on vient de placer le Cameroun dans la liste noire de ceux qui blanchissent les capitaux. Ça, c'est connu depuis, l'argent, blanchiment d'argent. Bon, ils arrivent, ils disent, oui, on a décaissé de l'argent, même si on sait que. Pour un projet déjà hein, qui a duré, même si je sais pas, et tout n'a pas été fait, on décaisse quand même parce que le Cameroun a une dynamique économique qui va permettre que ces choses-là soient faites, bien sûr. Voyez un peu le discours, hein. Quelles sont les défaillances qui ont été constatées? Pff, aucune idée. Le dynamisme économique, c'est quoi exactement? Aucune idée qui permet de garantir le remboursement du prêt, aucune idée. Donc, ne serait-ce que même par cette dette, on voit bien que l'Afrique continue à servir de la traite. Continue à servir la traite. C'est la vache à lait qu'on traite. À l'Occident, parce que cette dette-là, il faudra ouf, combien d'années pour la payer? C'est incomptable. Et donc, à ce jeu-là, les riches d'ici, ils pensionnent, ils pensionnent, ils pensionnent, ils pensionnent, et ils ne renvoient pas ça au peuple. Et la France le sait. Et elle dit rien, elle fait rien, les gens n'ont même pas d'eau potable, ils n'ont rien. Et vous voulez que les gens fassent comment sinon que immigrer, même si finalement ils finissent comme Naël. Alors on va vous dire que bah, c'est la politique, hein, démerdez-vous. Oui, mais à ce moment-là, il ne faut pas d'hypocrisie. Il ne faut pas d'hypocrisie, il ne faut pas tout remettre sur le gars à la banlieue qui est feignant, qui veut rien faire et tout. Il y a un moment où les gens sont fatigués, ils ont cru à la République, ils ont tout donné, et puis après on leur a foutu un coup de pied dans le dos, et voilà. Bon, d'autres, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres ne sont pas récupérables, mais alors il faut faire le travail. Bien, Amine Radio Silence, demain, hein, bah, Independence Day, on regardera Trump-Biden, parce que là aussi, Trump-Biden, les révélations sont terribles, et notamment celle-ci, on va vraiment s'arrêter là-dessus. Le fils Hunter Biden a écrit, on a trouvé le mail, à sa fille pour se plaindre que mais tout ce qu'il gagne, il doit rétrocéder 30% à son papa. Et que vraiment, il est le seul à nourrir ainsi la famille, de tous ceux qui reçoivent un peu d'argent à gauche. Alors, leur histoire devient une histoire de fou, parce que ce Biden, il n'a jamais travaillé. Il n'a apparemment pas de compétences. Comme a dit M. Trump, il ne sait rien faire de particulier, sauf ce qu'il a fait avec son papa. Donc, on va finir par avoir peut-être une affaire familiale en cours. Alors, ceux qui prédisaient la prison à Trump, ben, les mêmes ne prédisent pas la prison à Biden. C'est bizarre. Vous voyez? Les inégalités, inégalités sur inégalités, amis des radios silence. Vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Bock et je vous dis à bientôt.
Il m'a dit...